C'est Radio Fanta, la radio de l'école des Terres Bleues de Fontanille.
C'est rigolo.
Oh là là.
Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui à Mende pour une balade au fil du temps en cœur de ville avec Bénédicte du pays d'art et d'histoire.
Vous avez envie d'en savoir plus sur le centre-ville de Mende au temps du Moyen-Âge et des temps modernes? Alors suivez-nous.
Alors, est-ce que vous connaissez un peu les origines de Mende?
Non.
Pourquoi Mende s'appelle-t-elle comme ça?
Alors, le nom de Mende, vous savez d'où ça vient? Ça vient sûrement de Mimata. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Mimata? Est-ce que vous entendez quelque chose que vous connaissez dans ce mot Mimata?
Il y a le mont Mima.
C'est ça, le mont Mima. Et c'est quoi le mont Mima?
C'est une montagne.
Exactement, c'est derrière l'office de tourisme. C'est là où il y a la croix. C'est le cosme et la montagne, ça s'appelle le mont Mima. Et donc, la montagne, elle a donné son nom à Mende, Mimata, ça vient de Mima.
Et en quelle année est-elle apparue? Comment elle s'est créée, la ville de Mende, et à quoi ressemblait-elle au départ de sa création?
C'est difficile de dire exactement quand Mende est apparue. Par contre, les archéologues, ils ont retrouvé des premières traces d'habitation au pied du mont Mima, qui remontent au 2e ou au 3e siècle avant notre ère.
Et avant Mende, il y avait quoi?
Durant l'Antiquité, en fait, on sait que Mende était un village, un village pas très très grand. Vous vous rappelez quand on avait parlé de l'Antiquité? Vous vous rappelez le nom de la Lozère? Comment ça s'appelait?
Gévaudan.
Avant le Gévaudan, durant l'Antiquité? Les Gabales, le pays Gabales. Et vous vous rappelez quelle était la ville la plus importante du pays Gabales?
Jabal?
Exactement. La ville la plus importante, la capitale du pays Gabales, c'était Javol. Et Mende n'était pas très importante. C'était Javol, la ville la plus importante. Par contre, c'est vraiment au Moyen-Âge que la ville de Mende va se développer. Vous vous rappelez autour de quel personnage, de quel culte elle va se développer au Moyen-Âge?
Avec Saint-Privat.
Exactement. La ville de Mende va se développer autour du culte de Saint-Privat. Vous vous rappelez de l'histoire de Privat, on ne va pas revenir dessus. Simplement, voilà, vous vous rappelez qu'il y a un pèlerinage qui va se mettre en place autour de son tombeau et il y a de nombreuses personnes qui vont venir se recueillir. Et donc la ville va s'agrandir grâce à ce pèlerinage.
On a vu des archives qui montraient que le centre-ville était entouré de remparts avant. C'était l'entrée ici?
Oui, au Moyen-Âge, la ville de Mende est entourée de remparts. C'est au XIIe siècle que l'évêque décide de les faire construire pour fortifier et pour protéger la ville. Et il y avait bien une entrée ici, c'était la porte du Soubeyran.
Il y avait d'autres entrées au Moyen-Âge?
Oui, alors on a vu qu'on était devant la porte du Soubeyran, mais il y avait d'autres portes pour rentrer et pour sortir. Chaque porte ouvrait sur une route. On avait la porte du Soubeyran qui ouvrait vers la route du sud, la route des Cévennes. Il y avait la porte d'Aiguepass qui était la route de l'ouest, la porte du Chastel qui était la route du nord, la porte d'Angiron qui était la route du Vivarais. Voilà, rue du Soubeyran, la porte était là. Donc les grands parts, ils ont été construits au XIIe siècle. Et ils vont rester jusqu'au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on va les détruire pour aérer et pour agrandir la ville, d'accord? Alors, il reste presque plus de traces des remparts, juste le boulevard actuel, il suit pratiquement l'ancien tracé des remparts. Il faut imaginer que là où circulent les voitures, c'était le fossé, et juste là, il y avait les murailles.
Quelle est l'histoire de la fontaine du Griffon?
Alors, la fontaine du Griffon, c'est probablement l'une des plus anciennes fontaines de Mende. Elle est déjà mentionnée dans des textes en 1341. Alors, avant de te donner son histoire, je peux peut-être te dire ce que son nom signifie. Est-ce que vous avez déjà fait de l'occitan?
Oui, quand on était petit, mais... Oui, en maternelle.
Eh bien, Griffon, en occitan, ça vient peut-être de Griffoul. Griffoul, ça veut dire la source, l'eau qui jaillit. Voilà, on sait qu'il y a de nombreuses fontaines dans la ville dès le Moyen-Âge. Et pour cela, en fait, pour avoir des fontaines dans la ville, en fait, il fallait capter la source. Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle était, la source qui alimente les fontaines?
Dans les montagnes?
Exactement. Et on a parlé d'une montagne tout à l'heure.
Mont Mima.
Exactement. Les sources de la Vabre, elles jaillissent du mont Mima. Et en fait, très tôt, on va capter ces sources. C'est-à-dire que dans la montagne, on va faire un réservoir. Et ensuite, il va y avoir tout un réseau de canalisation des tuyaux, en fait, qui vont amener l'eau des sources dans la ville. Donc c'est un réseau souterrain, on ne les voit pas, ces tuyaux. Mais ils ressortent par les fontaines, parce que les fontaines, elles sont obligatoires à la vie dans une ville. En fait, ça sert à quoi une fontaine ?
Avoir de l'eau.
Et pourquoi il faut avoir de l'eau ?
Pour vivre.
Pour vivre, mais alors, ça sert à quoi ? À boire.
Ça sert à laver le linge.
Exactement, ça sert à laver le linge, mais pas que le linge. Ça sert à se laver soi-même, en fait, pour l'hygiène, pour boire, pour se laver, pour cuisiner, pour faire boire les animaux, pour nettoyer. Exactement, donc c'était important d'avoir plein de fontaines dans la ville dès le Moyen-Âge. Mais elle va changer plusieurs fois d'apparence. On va plusieurs fois la transformer, la modifier. Et elle va changer d'apparence. Même elle va être déplacée quand on va aménager la route. Vous voyez, avant, elle était un peu plus vers là-bas. Et même le petit bonhomme, il va changer plusieurs fois d'apparence. Donc avant, même, il tenait un petit oiseau dans sa main. Et peut-être qu'on peut imaginer aussi que Griffon, ça vient de là. Vous savez ce que c'est, hein ? Vous connaissez Harry Potter, Gryffondor ?
Oui.
Hein, c'est une sorte d'animal imaginaire, un rapace un peu. Eh bien, on sait qu'avant, il y avait aussi de l'eau qui coulait du bec du Griffon ou de l'oiseau. Voilà.
C'est vrai que les habitants la faisaient déborder plusieurs fois par semaine ?
Oui, la fontaine du Griffon, elle était très utile pour les villageois qui n'avaient pas l'eau courante à l'époque, hein. Comme on l'a dit, hein, on venait chercher l'eau à la fontaine pour boire, se laver, faire la cuisine, laver le linge, pour aussi faire boire les animaux. Mais la fontaine du Griffon, elle a aussi une particularité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on vient d'en rentrer par la porte du Souveiran dans la ville. Et en fait, c'est la fontaine qui est située au point le plus haut de la ville. Tout le reste est en pente. Vous avez vu ça ? Vous avez remarqué déjà ? Et donc, effectivement, on la faisait déborder et les eaux s'écoulaient dans les rues.
C'était pour laver les rues ?
Oui, la fontaine du Griffon, en fait, elle servait pour le nettoyage des rues. Il faut savoir, peut-être que vous vous en rappelez, on en avait parlé, que les normes d'hygiène n'en étaient pas les mêmes au Moyen-Âge et que les rues n'étaient pas goudronnées, elles étaient souvent très boueuses. Et en fait, dans les rues, les habitants jetaient leurs déchets, jetaient leurs épluchures de légumes, même dans les rues, il y avait des animaux qui vivaient, des cochons, on y laissait les... Mais oui. il y avait les chevaux, il y avait des poules, voilà. Et donc vraiment, oui, qui se promenaient là, qui vivaient dans les rues, et donc les rues étaient très sales. À Mende, on a inventé un système très ingénieux. Plusieurs fois par semaine, on faisait déborder la fontaine du Griffon, c'est-à-dire qu'on la bouchait et on laissait les eaux déborder. Les eaux de la fontaine, elles allaient couler dans les rues et emporter tous les déchets. Et les déchets étaient emportés hors de la ville et ils se jetaient dans le Lot. Comme ça, ça permettait de nettoyer assez facilement les rues.
Juste là, il y a la rue de l'Arjal. En classe, on a appris que Arjal, c'est un mot occitan qui veut dire égout ou canal.
Eh oui, c'est bien ça. Ça veut dire égout ou canal.
Pourquoi cette rue s'appelle comme ça alors ? Il y avait des égouts ici au Moyen-Âge ou un canal peut-être ?
Alors, ici il n'y avait pas un canal, mais cette rue s'appelle comme ça parce qu'on est juste à côté de la fontaine du Griffon et que quand on la faisait déborder, vous avez vu cette rue, elle est en pente en fait. Et quand on faisait déborder la fontaine, les eaux commençaient par s'écouler ici et emporter tous les déchets. Donc ça, voilà, vous avez vu un peu que la rue est aménagée avec un caniveau au centre. Et il faut imaginer que tous les eaux usées, les eaux sales, coulaient comme ça le long de la rue.
Elles ont l'air vieilles, ces portes. Elles datent du Moyen-Âge ?
Alors, dans cette rue, dans ce quartier, c'est vrai qu'on voit beaucoup de vieilles, belles portes. Alors, elles ne datent pas toutes du Moyen-Âge. Il y en a qui datent du 15e siècle, ou du 17e siècle, ou même du 18e siècle. Et en fait, ça montre que certainement, là où il y a une belle porte, il devait y avoir une personne assez fortunée. Et donc, c'était pour montrer l'entrée de son domicile, l'entrée de sa maison. Vous savez que la vieille ville de Mende, elle était divisée en plusieurs quartiers. On appelait ça des pans. Et là, on est dans le quartier un peu du chapitre, là où vivaient les chanoines, près de la cathédrale.
Et ces maisons à pans de bois, ça, c'est sûr que c'est du Moyen-Âge. Elles sont très hautes. Mais comment ont-elles fait pour résister autant de temps ?
Alors effectivement, ici, juste devant nous, on voit une maison qui est très ancienne. et elles datent probablement de la fin du Moyen Âge. Et alors, pour qu'elles aient résisté avec le temps, c'est certainement... Enfin, tu vois, aujourd'hui, on sait qu'elles sont protégées et on les a même restaurées.
C'était les maisons des riches ou des pauvres ?
Alors, je ne sais pas exactement si c'était des riches ou des pauvres, mais vu la qualité de la construction, on peut penser que c'était des personnes assez fortunées qui vivaient ici. Par exemple, tu vois, on voit qu'on a vraiment soigné les ouvertures, les fenêtres. C'est de la pierre taillée, on appelle ça des fenêtres à meneaux. Et souvent, voilà, ça montre qu'on était assez fortunés pour réussir à faire construire de belles fenêtres comme ça.
On voit que le premier étage était plus grand que le rez-de-chaussée. Apparemment, c'était parce qu'on manquait de place.
Exactement. Alors, on voit que c'est une construction qu'on appelle, c'est une architecture de maison à pan de bois avec un encorbellement. Alors, le pan de bois, ce qu'on appelle le pan de bois, ça désigne en fait une technique de construction avec une ossature. Une ossature, c'est un peu une sorte de squelette. Vous voyez là, le squelette, ce sont ces poutres en bois, en fait, qui vont, qu'on a mis régulièrement, notamment au premier étage de la maison. Et en fait, à l'intérieur de ce squelette, on ne va pas remplir avec de la pierre taillée, on va remplir plutôt avec ce qu'on appelle du torchis. Le torchis, vous savez, c'est un mélange qu'on fait avec de l'argile, avec de la chaux, avec de la paille et des petites pierres. Et donc, ça permet de remplir entre les poutres en bois. Et donc, en fait, on voit, comme tu dis, que l'étage au premier étage est un peu plus grand qu'au rez-de-chaussée. C'est ce qu'on appelle l'encorbellement. Ça, c'était une façon de construire au Moyen-Âge. C'est pour gagner de l'espace sur la rue, pour laisser le passage au rez-de-chaussée, on construit un peu comme un balcon. On dit en saillie, en porte-à-faux au premier étage. C'est-à-dire que la construction va dépasser un petit peu.
Cette construction était assez solide pour supporter le poids du premier étage ?
Oui, en fait, cette construction comme ça à pans de bois, c'est une structure qui est plus légère qu'une construction en pierre. Quand on construit avec des gros blocs de pierre, c'est lourd et donc ça se serait effondré. Alors que là, vu que c'est un pan de bois et du torchis, c'est plus léger et donc ça permet voilà, de construire comme ça en encorbellement. Mais alors, cette technique d'encorbellement, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Par exemple, eh bien, on empiète sur la rue et donc ça empêche vraiment la lumière de passer en fait. Et donc les rues au Moyen-Âge sont souvent très étroites, très sombres. Il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre dans la rue et souvent ça rend un peu les rues, on dit insalubres, pas très propres. À Mende, donc la ville du Moyen-Âge, la ville médiévale, elle est enfermée dans les remparts. Les rues sont étroites et assombries par les étages en saillie. Et donc, on va détruire les remparts au XVIIIe siècle, justement pour permettre d'aérer et d'agrandir la ville.
La place au beurre, c'est bizarre. Pourquoi porte-t-elle ce nom-là ? Est-ce que quand ils vendaient du beurre, uniquement du beurre ?
Alors, la place au beurre, c'était une place très importante au Moyen-Âge. En fait, c'était un peu le centre de la cité commerçante. Sur cette place, en fait, se tenait le marché des produits fermiers. On pouvait y vendre ou y acheter du beurre, des fromages, mais aussi des volailles et des œufs. Et on sait que ce marché des produits fermiers, il était encore en activité jusque dans les années 1970.
Je suis étonnée d'apprendre qu'il y avait déjà des marchés au Moyen-Âge. Pourquoi Mende était-elle une ville marchande ?
Alors c'est un peu de par sa situation en fait. Mende, elle est située au centre du département. Elle a vraiment une position stratégique. Elle joue un peu le rôle de carrefour entre le sud, le nord, entre l'Aubrac, la Margeride, l'Écosse, les Cévennes, entre le Languedoc et l'Auvergne. Et en fait, dès le Moyen-Âge, Mende, ça va devenir une ville d'échange. C'est une ville marchande qui est au carrefour des voies de communication. On vient à Mende pour vendre ou acheter des marchandises. Et surtout, au Moyen-Âge, il n'y avait pas encore hyper eu.
Que vendait-on le plus sur les marchés à Mende ? Est-ce qu'on y vendait de la laine ?
Alors, on sait qu'on vendait beaucoup de choses à Mende. On sait que, par exemple, les paysans du Cos, ils descendaient vendre du blé, de la laine et des brebis. Et en échange, ils échangeaient, par exemple, du fromage, des bœufs ou des chevaux. Et inversement, les gens de la montagne, de l'Aubrac ou de la Margeride, ils venaient vendre du beurre, des fromages ou des laitages. Et en échange, ils achetaient du blé qui poussait pas très bien dans les montagnes, par exemple. Et lors des grosses foires, on vendait aussi du bétail et des draps de laine. Vous savez que le commerce de la laine, des draps de laine, est très important à Mende. Et au début du XVIIIe siècle, Mende comptait à peu près 146 tisserands. Donc ils devaient produire énormément de draps de laine. Et ces draps de laine étaient vendus sur les marchés et après ils pouvaient circuler dans toute la France et voire même l'Europe.
Ils se trouvaient où les marchés et à quelle fréquence ils avaient lieu ?
Alors il y avait beaucoup de marchés dans la ville de Mende. Et en fait, les places, encore aujourd'hui, les places de Mende portent quelquefois le nom des marchés qu'elles accueillaient avant. On est ici sur la place au beurre et on a vu qu'ici se tenait un marché pour vendre les produits fermiers avec du fromage, du beurre, des œufs, des volailles. Et ce marché avait lieu le samedi. On ira voir tout à l'heure la place au blé. Et la place au blé, c'était là où il y avait la halle pour le marché aux céréales. Il y avait aussi la place des jardinières. Elle est juste à côté, c'est la place de la République, la place Henri Bourillon aujourd'hui. Et là, on vendait des fruits et des légumes. Il y avait aussi la place des étoffes. On y est passé, c'est la place où il y avait la fontaine, la place René Estoux. Et bien, qu'est-ce qu'on vendait, place des étoffes ? Des draps de laine. Il y avait aussi des grandes foires. Par exemple, le 7 janvier se tenait la foire du gras. C'est là où on pouvait acheter des cochons gras pour faire de la charcuterie. À la foire de Pâques, on négociait les bœufs. Il y avait aussi une foire le 20 mai qui a été créée en 1846 et c'était là où on pouvait acheter des plants pour les jardins, avec des choux, où on pouvait acheter des plants de choux, de poireaux, de salades. Et il y avait aussi un gros marché au bétail où on pouvait acheter des bovins ou des porcs qui étaient situés sur le foirail. Le foirail, d'ailleurs, vous savez ce que ça veut dire ? Pourquoi ça s'appelle foirail là-bas où... Et non, on ne vendait pas du foie, ça, foirail. Vous n'entendez pas un mot que vous...
Foire,
exactement. Le foirail, c'est un champ de foire. C'est le lieu où peut se tenir une foire.
Pouvait-on retrouver des marchandises du Gévaudan loin de la ville de Mende ?
Oui, par exemple, on sait qu'il y avait la foire de la Toussaint, hein, qui était la dernière foire de l'année avant l'hiver et surtout les risques de neige. Et c'était une foire aux chevaux. Et cette foire, elle était connue dans tout le Midi. Et donc les habitants du Midi, ils montaient à la foire de Mende pour venir acheter des chevaux. Et c'était surtout les vignerons qui montaient, en fait, parce qu'ils étaient à la recherche de chevaux ou de mulets. Parce que les mulets lausériens, en fait, ils étaient réputés pour le travail dans les vignes, pour être des bons animaux qui travaillaient bien dans les vignes. Donc voilà, juste avant l'hiver, les gens du Sud venaient à la foire de la Toussaint pour acheter des mulets, pour ensuite les faire travailler dans les vignes. Et des exemples comme ça, il y en a plusieurs. Je vous parlais des draps de laine qui avaient voyagé dans toute la France. Voilà. Les produits lausériens, ils sont pas mal quand même. Ça vaut le coup de les faire connaître partout.
On faisait du troc à cette époque-là, sinon on utilisait quelle monnaie ?
Alors j'imagine qu'on faisait du troc, oui. On peut imaginer, ben, comme on l'a dit, hein, qu'un paysan du COS qui venait vendre ses céréales et ben, pouvait échanger ses céréales contre du fromage de la Margeride, par exemple. Et pour la monnaie, bah, je ne sais pas exactement, je vais m'en renseigner. En tout cas, je sais que je suis sûre, je peux te dire qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas la carte bleue ou l'échec. Voilà, on utilisait plutôt de la monnaie, des pièces de monnaie.
Pourquoi cette rue s'appelle la rue Basse ?
Eh bah, comme son nom l'indique, en fait, cette rue se trouve dans la partie la plus basse de la vieille ville, en fait. Et son tracé, il n'a pas changé depuis le Moyen-Âge. En fait, il suivait le tracé des anciens remparts qui passaient juste là, en bas de la ville.
Le lieu de construction de cet hôtel était-il particulier ou on les construisait n'importe où ? Ils étaient regroupés dans le même quartier ? Est-ce que ces bâtiments sont toujours des hôtels particuliers ? Il n'y a qu'une seule famille qui habite dedans ?
Alors, pour construire un hôtel particulier autant moderne, vous en avez eu un juste là devant vous. En fait, il fallait avoir un grand terrain, une grande parcelle. Et en fait, là, on est vraiment, les temps modernes, c'est vraiment la période où on n'a pas encore détruit les remparts. Et donc, les espaces disponibles sont assez restreints. Et on sait qu'au niveau de la rue Basse, c'était le quartier de Champneau, ça s'appelait. Champneau, ça veut dire le champ neuf. Et comme son nom l'indique, c'était des champs. En fait, c'était un endroit qu'on avait laissé vide. En fait, c'était un endroit où on n'avait rien construit. Et donc, quand les familles enrichies, les familles riches des notables mandois, hein, vous savez, ben, les bourgeois, les magistrats ou les gens qui travaillaient dans l'administration, ont voulu se faire construire des belles demeures des temps modernes, eh bien, on a choisi les espaces encore libres et donc ils se sont installés ici, rue Basse, dans le quartier de Chanot. En fait, souvent, ces bâtiments ne sont plus des hôtels particuliers parce que c'était durant les temps modernes qu'on les a construits et il s'est passé beaucoup de choses depuis, notamment la Révolution française et où les familles riches ont été un peu chassées, les familles riches sont parties. Et donc, ces bâtiments ont changé de propriétaire. Et même, des fois, il y a eu des travaux et ils ont été transformés.
Dans la façade de l'hôtel particulier. Et après, on va rentrer pour pouvoir parler normalement, en fait, et pas crier.
Là, on va monter au premier étage et regardez bien l'escalier. Les escaliers des temps modernes, dans les hôtels particuliers, ils ont une particularité. Vous allez voir, les marches, elles ne sont pas très, très hautes. Elles sont prévues pour que les dames puissent monter les escaliers avec leur longue robe, mais sans se prendre les pieds dedans. Donc, vous imaginez que vous avez une longue robe. Vous expliquez un petit peu, hein, vous le savez peut-être déjà, mais l'hôtel de ville actuel, en fait, c'est un ancien hôtel particulier qui appartenait à la famille Moret de Charret. Et cette famille, elle a fait construire cet hôtel particulier en 1774. Vous savez, c'est le moment, je vous ai dit, les remparts, ils ont été détruits au XVIIIe siècle. Et donc là, on était à l'extérieur des remparts. Donc c'est vraiment un quartier nouveau qui va s'ouvrir. Et donc, on a profité de cet espace qui n'était pas encore construit pour construire un bel hôtel particulier. Et donc, c'est vraiment, cet hôtel particulier, c'est vraiment une des premières demeures d'importance qui a été construite hors de l'ancienne enceinte, hors des remparts. Alors, l'histoire de cet hôtel particulier ne s'arrête pas là, hein, puisque après la Révolution, après 1789, l'hôtel des Moret de Charret, il va être acquis par la ville en 1851 et transformé en mairie, en hôtel de ville.
On sait que c'était surtout les riches qui habitaient dans ces hôtels. On attribuait les étages suivant la richesse des personnes qui y habitaient. Au rez-de-chaussée, il y avait les écuries, et dans les combles vivaient les domestiques, c'est-à-dire les serviteurs. Le premier étage était occupé par les bourgeois.
Ces hôtels ont beaucoup de fenêtres. Des façades étaient faites de manière symétrique.
Alors, tu veux savoir pourquoi on construisait de manière symétrique ? Eh bien, en fait, c'était le goût de l'époque. On trouvait ça plus élégant. Et c'était aussi une manière de rompre avec la façon de construire au Moyen-Âge, où les maisons avaient des rares et des petites ouvertures, tu vois. On ne construisait pas des grandes fenêtres et de nombreuses fenêtres. Et on aimait les grandes ouvertures et la symétrie. C'était surtout un moyen de rappeler l'Antiquité. Vous vous rappelez les constructions de l'Antiquité ? Quand on était une riche famille, on aimait construire des bâtiments qui s'inspiraient des demeures de l'Antiquité. On appelait ça une architecture néoclassique.
Dans les lavoirs, les femmes allaient laver les vêtements. Les tanneurs lavaient aussi les peaux dans ce lavoir. Et la laine, est-ce qu'on la lavait ici aussi ?
Et oui, effectivement, ce lavoir, il a été utilisé à différentes époques par les lavandières pour laver le linge, par les tanneurs et par les tisserands. Alors, les tanneurs, c'est eux hein, qui, au Moyen-Âge, ont aménagé ce lieu pour nettoyer les peaux et nettoyer pour dégraisser les peaux des animaux, hein, notamment, vous avez vu le parchemin en classe, notamment la peau de chèvre ou la peau de mouton, il fallait la dégraisser. Et pour cela, ils utilisaient des bains avec de la chaux. Et en fait, c'est de là que vient le nom de le lavoir de la calquière. Ça vient de chaux, la chaux qu'on utilisait pour dégraisser les peaux. Et c'est la chaux qu'utilisaient les tanneurs. Et à Mende, la tannerie, c'est la tannerie des cuirs. Hein, c'est une activité qui est très ancienne. Et donc, par contre, ça, c'était au Moyen-Âge. Et par contre, la tannerie, hein, les tanneurs, c'était quand même une activité qui était assez polluante et nauséabonde. Ça sentait pas très bon. Et donc, assez rapidement, on va demander aux tanneurs, même s'ils étaient influents, importants, on va leur demander de se déplacer parce que ça sentait trop mauvais à l'intérieur de la ville. Et donc, ils vont se déplacer hors de la ville et ils vont aller s'installer près du Lot. Notamment les tisserands aussi, ils vont s'installer près du Lot pour pouvoir continuer leur activité un peu salissante sans que tous les habitants de la ville subissent les mauvaises odeurs et la pollution des bains de chaux.
Qu'est-ce que c'est une halle ? C'était quoi sa fonction ?
Alors, on est ici sur la place au blé et c'est une autre place marchande de la ville. C'est ici que se déroulait la vente du grain. Et donc, une halle, c'est un endroit couvert où se tient un marché. Et la halle actuelle que vous pouvez voir ici, elle date de 1922 et elle a remplacé une halle en pierre et en bois qui a été construite en 1745. Et cette halle en pierre et bois, elle est devenue trop petite. Et donc, au début du XXe siècle, on a préféré une architecture métallique qui était à la mode à l'époque pour installer le marché dessous.
Moi, je connais les halles de Sète. C'est un endroit où on vend du poisson. On connaît aussi la halle Saint-Jean et la halle aux vêtements. Il y a-t-il un rapport ?
Oui, alors, voilà, comme je vous le disais, une halle, c'est un endroit couvert où se tient un marché. Et donc, encore aujourd'hui, il y a des endroits qui s'appellent comme ça, qui utilisent ce terme pour remplir l'endroit où se tenait le marché. Bien sûr que la halle aux vêtements, ça n'a rien à voir avec la halle au blé.
On ne vendait que du blé à la halle au blé ? Pourquoi ça s'appelle la place au blé ? C'est marrant que les places portent un nom de nourriture. Amande, est-ce qu'il y a aussi la place au sucre, à la confiture et celle au Nutella ? Elle est où ?
Alors, sous la halle au blé, on vendait du blé, mais aussi des céréales comme le seigle. Et ces céréales, on les vendait sous forme de grains, mais aussi sous forme de farine ou même encore du pain.
Elle a été construite quand, cette tour, et pourquoi on l'a construite en fait ?
Et oui, on est devant la tour des pénitents. C'est l'ancienne tour d'Aurillac. Et cette tour, c'est l'unique vestige des fortifications, des remparts qui ont été construits au XIIe siècle. Alors, on l'a dit, les murailles, elles sont démolies au XVIIIe siècle à partir de 1768 pour aérer et agrandir Mende, pour lui donner du soleil et de l'espace. Et la tour d'Aurillac, en fait, elle a été conservée parce qu'entre-temps, elle avait été transformée en clocher. Et c'était un clocher pour la chapelle qui avait été construite juste en dessous. La chapelle, c'est la chapelle des pénitents qui est construite en 1657. Et elle a été construite pour les pénitents blancs.
C'est quoi les pénitents et pourquoi elle s'appelle comme ça, cette tour ? Est-ce que cette tour faisait partie des remparts de la ville de Mende au Moyen-Âge ?
Oui, alors cette tour, comme je viens de le dire, elle faisait partie des tours des remparts au Moyen-Âge. Et elle s'appelle la tour des pénitents puisqu'elle a été transformée en clocher pour la chapelle des pénitents. Et en fait, les pénitents blancs, c'est une confrérie religieuse qui a été fondée en 1626 à Mende.
À quoi servait-elle ?
Eh bien, cette chapelle, en fait, elle servait pour la confrérie des pénitents blancs. C'était une confrérie religieuse et donc dans cette chapelle, ils faisaient des cérémonies.
Radio Fonta, une émission proposée avec le soutien du ministère chargé de la ville, le préfet de la Lozère, dans le cadre du quartier prioritaire de politique de la ville, quartier 2030.